Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
Midi 50, c'est le grand retour de l'enfant chéri Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut Nick! Nick, est-ce que tu es là?
Hey, salut tout le monde!
Hey, content.
J'ai touché mon bouton.
Tu faisais
ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Je pensais que tu faisais dodo. Je me suis dit, il s'est endormi pendant la pause.
Inquiétez-vous pas.
Non. Hey, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas jasé, mais le temps passe vite, puis l'actualité, des fois, change du tout au tout. On parlait du déficit astronomique de 11 milliards de dollars sur le budget pour 2024, et en quelques heures, ça a changé quand Fitzgibbon est arrivé en disant... Les Québécois consomment trop d'électricité, il va falloir sortir le bâton. Et là, ben, une multitude d'articles dans les journaux sont sortis comme par magie. Et là, on te disait de prendre ta douche avec un sablier et ou remplacer tes sacs de poubelles par des sacs de chips. Et là, tout le monde a comme oublié le déficit de 11 milliards de dollars. Fitzgibbon est un génie.
Oui.
Fitzgibbon est un génie, c'est un gars qui est capable de faire changer le beat. On était tous sur le 11 milliards, puis finalement, c'est... Attends un peu, là. Lui, il veut augmenter les tarifs d'électricité parce qu'il trouve qu'on en dépense trop. Puis on parle plus du 11 milliards, mais c'est important d'y revenir. Puis la semaine dernière, toi, tu étais juste à côté de l'Assemblée nationale, tu as été séquestré et tu as passé ta journée là. Comment ça a été, hein?
Ben, c'était le fun. Non, mais ben, pas tant. Là. Je veux dire, c'est le fun si vous êtes un capoté de politique publique, que vous aimez ça, lire des grosses briques de budget. Dans mon cas, c'est surtout comme la journée annuelle où est-ce que, ben, qui est essentiellement la plus importante pour chaque directeur de la fédération parce qu'on fait l'exercice dans chaque province ainsi qu'au fédéral. Et donc, là, c'est à mon tour de le faire au Québec. Donc, j'arrive là à 10h le matin, essentiellement pour expliquer un peu c'est quoi le huis clos à monsieur et madame tout le monde. Vous rentrez là, vous n'avez pas le droit d'avoir votre téléphone. C'est mis dans une enveloppe ainsi que tout appareil Bluetooth que vous pourrez avoir avec vous, donc vos écouteurs ou votre souris pour votre ordinateur, tout ça dans une enveloppe que vous récupérez à la sortie. Et une fois que vous arrivez à l'intérieur du huis clos, ben vous n'avez pas le droit d'en sortir. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à l'intérieur, il faut attendre 16 heures, soit l'heure à laquelle le ministre des Finances va faire son discours du budget. Avant ça, c'est interdit de sortir d'aucune manière. Donc oui, on est un peu séquestré, mais on a quand même accès à de la nourriture et aux toilettes. Mais il n'en reste qu'au final... écoute, je suis rentré là à 10h, j'ai ouvert le document du budget à 10h10, puis je suis tombé de ma chaise à 10h12. Donc, ça a été assez rapide. J'ai sauté directement sur le cadre financier, puis c'est là que j'ai réalisé qu'on avait effectivement le plus important déficit de l'histoire du Québec en prenant en considération l'inflation. Puis pour faire un peu un lien avec ce que tu disais au début, oui, effectivement, cette semaine, on parle, depuis même en fin de semaine, on a eu une drôle de couverture de la part du Journal de Montréal et du Journal de Québec par rapport à la question énergétique et tout ça, pour un peu nous faire oublier qu'on avait un déficit monstre. Et c'est drôle que le gouvernement se tourne maintenant vers les citoyens pour les responsabiliser quand il nous a livré un des budgets les plus irresponsables que j'ai vu de ma vie. Puis pourtant, j'ai passé à travers plusieurs budgets, ne serait-ce qu'au courant des dernières années, mais aussi dans mes travaux à l'université. Et je veux dire, celui-là, ça dépasse l'entendement à plusieurs niveaux. Parce qu'il n'y a pas juste le déficit comme tel qu'il faut se rappeler. Il y a la croissance de la dette, il y a le fait que le ratio de PIB est beaucoup moins de moins en moins intéressant pour le Québec. Donc, ça, c'est un paquet de nouvelles qui nous sont sorties. Puis après ça, on se fait dire, on va laisser entendre que c'est maintenant au tour des gens de faire des sacrifices. Vous devez prendre un sablier pour prendre votre douche, pour sauver de l'électricité, pour qu'Hydro-Québec fasse plus d'argent et que ça ramène plus de revenus au gouvernement du Québec. Alors que la réalité, le véritable problème au Québec présentement, quand on regarde les chiffres, c'est pas les revenus, c'est les dépenses. Et ça, ben malheureusement, le gouvernement du Québec, ni dans le dernier budget, ni dans l'actuel, il a jamais mis un pied sur les freins à un seul moment pour ne serait-ce que faire un peu de ménage, s'assurer qu'on reste quand même dans des eaux tranquilles. Donc, bref, ce manque de responsabilité-là, il essaie de nous faire passer sur nos épaules. Puis ça, j'espère que ça passera pas comme ça.
Mais Nick, est-ce que tu as l'impression que les citoyens comprennent l'ampleur de ce déficit-là? Parce que bien souvent, tu peux te promener dans la rue et demander aux gens « Hey, il y a combien de millions dans un milliard? » Puis la majorité des gens que vous allez croiser ne le savent pas. C'est d'une tristesse incroyable, tu sais. Et as-tu l'impression que le 11 milliards fait peur tant que ça aux citoyens ordinaires? Moi, c'est, tu sais, le 11 milliards, je le trouve vraiment impressionnant, mais le déficit structurel de 4 milliards, je me dis, mais comment on va faire pour se relever de ça dans les prochaines années? C'est plus de 4 milliards structurels.
Exact. Bien... tu as bien posé la question parce que c'est vrai que depuis plusieurs jours, puis sinon depuis plusieurs années au fédéral, on parle souvent des déficits. Puis c'est drôle parce que c'est un peu difficile à expliquer. Mais nous, on va pas juste parler des déficits. Je pense que ça vaut plus la peine de parler des frais en intérêt. Parce que c'est ça la conclusion au final des déficits. Essentiellement, quand on dépense plus, quand le gouvernement dépense plus que ses revenus, il accumule un déficit. Puis après ça, ce déficit-là, bien, il est transféré sur la dette. Et à chaque année, bien, on doit remplir nos obligations en faisant un paiement sur le service de la dette, ou donc un paiement sur les intérêts. Et ça, par exemple, c'est assez important. Juste cette année, les intérêts sur la dette, c'est 10 milliards. Ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pèle vers l'avant des déficits, comme on l'a fait dans les années 80, 90, début 2000 également, il y a eu un peu d'équilibre budgétaire avec les libéraux, on s'en souvient. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, il y avait un surplus de 7,4 milliards. On avait donc la marge de manœuvre pour réduire la dette du Québec. Finalement, on a préféré dépenser cet argent-là. Et puis, durant la pandémie, c'est disparu. Mais il n'en reste que depuis plusieurs années, on accumule ces déficits-là qui font grimper la dette et qui font aussi grimper les paiements en intérêt qu'on paye chaque année. Puis 10 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. C'est de l'argent qu'on met pas dans notre système de santé, en éducation ou dans les poches des contribuables. Et c'est pas juste 10 milliards cette année, je pense, qui vaut la peine d'être pointé du doigt. C'est le fait qu'au courant des 5 prochaines années, donc au-delà même du mandat de la CAQ, ça va nous coûter 52 milliards de dollars en frais d'intérêt sur la dette.
Exact.
Et à aucun moment, malgré le fait qu'on va payer 52 milliards, là, c'est quand même énorme là, sur 5 ans, là, c'est pas de l'argent qu'on met dans la société civile québécoise ou pour avoir un nouvel hôpital, c'est juste pour rembourser de l'intérêt sur la dette qui va continuer à augmenter malgré tout et qui, au fur et à mesure, va nous coûter de plus en plus cher. Donc, ça coupe la marge de manœuvre dont on dispose présentement et dans le futur, pour les générations futures, pour être en mesure de faire les choix de société qui leur conviennent et d'avoir la marge de manœuvre pour le faire. Donc, c'est ça vraiment pour nous, les déficits. Puis, je ramènerai aussi un petit parallèle, comme je disais au départ, avec Ottawa, parce qu'on a un peu perdu de vue, ça veut dire quoi, des déficits, depuis qu'on a quelqu'un à Ottawa qui nous a promis initialement qu'il allait faire quelques déficits, puis ça allait se rééquilibrer de soi-même, et que finalement, on se ramasse des années plus tard, presque 10 ans plus tard, à être dans le rouge au fédéral avec une dette qui a doublé. Donc, c'est comme si au Québec, on avait un... comme dans plusieurs autres provinces d'ailleurs, parce que c'est pas juste au Québec qu'on présente un déficit dans les finances publiques. En Saskatchewan, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Ontario, c'est quand même aussi déficitaire. Mais aucun d'eux n'a réussi à creuser un déficit plus important que celui qu'ils ont eu durant la pandémie. Il y a vraiment juste le Québec qui a réussi ça cette année. Du moins, je touche du bois parce que j'ai pas encore vu des finances en Saskatchewan, mais au final, on est vraiment les seuls qui ont réussi ça. Donc, ça démontre vraiment à quel point c'est la nuit et le jour, des fois, entre ce qu'on s'attendait de la part du gouvernement de la CAQ et ce qui nous livre présentement. Parce que je tiens à rappeler que c'est le gouvernement qui s'est présenté comme étant le parti de l'économie, le parti qui allait gérer les finances publiques avec rigueur. Et là, on se présentait un déficit monstre. Donc, je pense que ça démontre un peu le manque de sérieux. Puis au final, dites-vous une chose. Est-ce que vous seriez en mesure de passer à la banque en disant, regardez, je fais 100 000 par année, mais j'ai dépensé 110 000 cette année. Donc, il n'y a aucun problème, je peux faire plus d'emprunts, puis ça va s'équilibrer de soi-même dans le futur parce que je prévois faire plus d'argent dans 5 ans. Ça ne marcherait pas pour vous, mais le gouvernement peut le faire avec votre argent et je pense que ça, c'est complètement problématique.
Moody's va reviser quand hein, notre cote au Québec?
On touche du bois, on espère qu'ils ne le font jamais parce que, je veux dire, ça ne nous aidera pas. Ça, c'est un point que j'ai mentionné à chaud parce que je vous ai déjà rappelé, je ne suis pas un fiscaliste, un économiste, je suis un analyste de politique publique. Donc, il y a quand même des limites à ce que je peux prévoir ce qui va se passer dans le futur. Mais j'ai souvent rappelé au gouvernement du Québec et sur les ondes à BLVD que la dette est un réel, c'est vraiment important. Mais à chaque fois qu'on interpelle le gouvernement, on nous dit, ben c'est pas grave parce qu'on a un ratio de dette-PIB qui est intéressant. Autrement dit, le PIB du Québec, la croissance de l'économie est plus rapide que la croissance de la dette. Ça, c'était vrai jusqu'au dernier budget, en fait, parce que ce fameux ratio-là, il va s'empirer au courant des prochaines années à cause du ralentissement de l'économie, qu'on dit essentiellement, c'est bien beau un indice ratio dette-PIB, mais si le PIB ralentit, ton ratio ne vaut plus rien dire. Mais c'est ce qui est arrivé littéralement. Et de facto, ben, la dette augmente également. Donc, ce ratio-là est beaucoup moins intéressant et ça joue beaucoup sur la manière que les agences de crédit, comme Moody's, comme Morningstar et autres, voient le Québec, Standard & Poor's également. Et là, ils ont envoyé un avertissement au gouvernement du Québec en disant, écoutez, là, c'est bien beau les dépenses, là, mais vous allez devoir mettre le pied sur le frein parce que sinon, ben, on va réviser à la baisse la cote du Québec. C'est encore très bonne, pour le rappeler. Elle est encore aux alentours de AA pour la plupart des institutions, mais il n'en reste que l'avertissement est très sérieux Et au final, si jamais la cote de crédit du Québec est révisée à la baisse, ça va avoir un impact à plusieurs niveaux. De un, ça va faire en sorte qu'on va payer plus cher en intérêt sur la dette du Québec. Donc, tantôt, je parlais de 10 milliards de dollars par année qu'on paye en intérêt. Ça va donc augmenter, ça va couper notre marge de manœuvre de manière encore plus importante. De deux, ça fait en sorte que les termes de remboursement de la dette vont changer. Et ça peut effectivement nous contraindre à faire des choix drastiques dès maintenant pour la rembourser. Et finalement, un point encore plus important, ça affecte la notoriété du Québec sur les marchés internationaux. Donc, les investisseurs vont s'intéresser un petit peu moins au Québec en sachant que la gestion des finances publiques bat un peu de l'aile. Bien sûr, c'est pas encore l'apocalypse, on est encore loin de là, mais l'avertissement est très important. Faut le prendre au sérieux et on espère que le gouvernement du Québec va le prendre au sérieux. Le gros, gros problème dans tout ça, c'est que durant la présentation du budget, puis ça, c'est peut-être ce qui m'a mis le plus en bas de la chaise, c'est qu'ils nous ont donné un déficit le plus important de l'histoire du Québec. Ils nous ont fait croire que ça, c'était responsable, alors que tout le monde s'entendait que pour dire que c'était irresponsable. Je veux dire, on a entendu des intervenants de gauche et de droite, tant du PCQ que du Québec solidaire, que du PQ ou du Parti libéral, tous dénoncer le déficit en disant, ben tout ça pour ça, au final.
C'est intéressant, oui, ce que tu amènes, parce que j'ai toujours l'impression que c'est un peu un genre de déficit commun, là. Peu importe le parti politique, là, c'est commun. Ah, il y en a qui ont moins bien fait les choses, il y en a qui ont mieux fait les choses. Assurément, la CAQ n'est pas dans ceux qui ont mieux fait les choses. Mais un déficit aussi gros, d'une bonne ampleur comme celle-là, comme celui-là, c'est un peu commun à tous les partis qui sont passés, là.
Ben, c'est exact, surtout que un peu comme ça a été le cas pour les négociations du Front commun avec les syndicats de la fonction publique, au final, on donne un gros chiffre et il n'y a personne qui est vraiment satisfait. C'est-à-dire qu'on regarde, par exemple, les interventions qui ont été faites de Québec solidaire. On s'entend que si jamais ce parti-là est au pouvoir un jour, comme le PQ, je m'attends à ce qu'il fasse à peu près autant de dépenses déficitaires que la CAQ. Là. Je m'attends pas à ce qu'il gère les finances publiques de manière encore plus, avec plus de rigueur. Mais il en reste qui ont marqué des points en disant, écoutez, on a un déficit majeur de 11 milliards, puis il n'y a rien, par exemple, pour le logement, ou il n'y a rien pour l'immigration, la francisation, c'est pas assez. Fait que, tu sais, sans être d'accord nécessairement avec leur prise de position ou leur politique, ils ont quand même marqué un point que ben, c'est 11 milliards, mais qu'est-ce qu'on a en retour? Pour l'instant, le gouvernement du Québec a juste dit, ben, on investit massivement en santé et en éducation. Je m'excuse, mais ça, c'est jouer avec les mots. On augmente les portefeuilles, on gonfle les portefeuilles, surtout pour les salaires, en bonne partie à cause des concessions qui ont été faites au Front commun, qui étaient déjà en partie prévues. Mais on attendez-vous pas non plus à ce que ces investissements massifs nous donnent plus d'hôpitaux, des services beaucoup plus rapides en santé. Donc, on gonfle la dette et les déficits, mais c'est quoi le retour, finalement, pour les contribuables? Puis, à gauche et à droite, on s'entend pour dire que c'est assez problématique. Puis le PLQ, je pense qu'ils ont fait la meilleure intervention là-dessus en disant, écoutez, on a laissé 7,4 milliards en surplus, vous nous revenez avec un déficit monstre et vous n'avez même pas de plan pour le retour à l'équilibre budgétaire maintenant. Et ça, c'est assez problématique. Ils nous disent, on va vous donner un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire en 2025. Donc, on nous donne le plus gros déficit cette année, puis si on veut savoir comment est-ce qu'on sort du rouge, ben on doit attendre un an, le temps que le gouvernement du Québec nous écrive un rapport pour nous dire c'est quoi la piste à suivre. Donc, c'est un des éléments les plus irresponsables dans le budget, au final. Là.
Nick, t'as passé la journée là, dans le budget 2024. Est-ce que vous avez trouvé des bons coups avec la Ligue, la Fédération canadienne des contribuables?
Écoutez, on a mis beaucoup d'efforts pour trouver ça, parce que c'est quand même toute une brique. Il faut dire que les documents qu'ils nous donnent, c'est les documents du secrétaire du Conseil du Trésor. On a également le budget, plus un paquet d'informations additionnelles. Mais au final, il y a quand même quelques éléments qu'on peut dire, bon, c'était pas si infernal que ça comme budget, mais on aurait voulu voir mieux. Un premier élément qui vaut la peine de mentionner, rouler vert. Bon, ça va prendre le champ, essentiellement. D'ici 2027, ce programme-là qui permet de subventionner l'achat des voitures électriques, ça va prendre fin. C'est drôle parce qu'on prévoit qu'en 2027-2028, les surplus d'électricité au Québec n'existeront plus. Et là, on prévoit arrêter de subventionner l'achat de voitures électriques en 2027. Donc, je ne sais pas s'il y a une corrélation là-dedans, mais il en reste que se dire que cet argent-là serait épargné parce que, veux, veux pas, les gens qui ont qui achètent présentement des voitures électriques ou qui ont les moyens d'en acheter ne sont pas les moins nantis de la société, mais c'est eux qui profitent de subventions assez alléchantes. Donc, de dire que ce programme-là soit coupé, c'est intéressant.
Puis, tu sais, Fitz, dans les dernières heures, a eu de l'air fou, puis pas à peu près avec une de ses citations en disant que la fin des subventions pour l'achat des véhicules électriques, ça n'allait pas changer grand-chose. Bien, de un, c'est faux, parce que si on se fie à l'Ontario, c'est une baisse d'à peu près 55% qu'on devrait subir, comme ils ont subi en Ontario quand ils ont mis fin à aux subventions. Et de deux, ce que Fitz dit, c'est que tout l'argent qu'on donne depuis des années en subvention, bien, dans le fond, on l'a donné dans le vide parce que ces véhicules-là, on les aurait vendus pareil.
Bien, c'est exact. Fait que, au final, c'est un aveu d'échec de leur part. Puis en même temps, comme tu l'as mentionné, on remarque partout que quand on met fin à cette subvention-là, bien, les gens retournent à leur habitude d'acheter des voitures à essence tout simplement parce que c'est plus intéressant d'acheter une voiture électrique. Et aussi, dans plusieurs égards, on remarquait que dans certaines juridictions où est-ce que les subventions aux voitures électriques existaient, bien, les voitures électriques coûtaient bizarrement beaucoup plus cher qu'ailleurs. Donc, quel hasard encore une fois. Donc, de voir ce programme-là disparaître, c'est assez drôle parce que c'est un aveu d'échec parce que, d'un autre côté, on misait sur un objectif pour 2030 d'avoir 2 millions de voitures électriques sur les routes. On a présentement moins de 250 000 et on élimine la subvention en 2027. Donc, cet objectif-là est pas mal condamné à échouer d'une manière ou d'une autre. Mais un élément aussi intéressant dans le budget, puis ça, c'est quelque chose pour laquelle la Fédération s'est battue longtemps et on est content de voir un indice que peut-être on aura une victoire là-dessus, c'est la mise en place d'un comité de révision des dépenses gouvernementales. C'est quelque chose qui avait été fait par le gouvernement de Paul Martin à l'époque au fédéral, ainsi que Stephen Harper, tous les deux dans le but de rééquilibrer les finances d'Ottawa. Et là, ben, dans le budget, on annonce que cet exercice-là va avoir lieu en printemps 2024. Donc, on espère que ça va inclure les groupes de la société civile, peut-être le nôtre également, pour qu'on puisse intervenir et donner des idées au gouvernement où couper, ou faire preuve ou faire des compressions pour justement mettre un plan de l'avant pour équilibrer les finances et rembourser la dette du Québec avant qu'elle ne grossisse et qu'elle soit incontrôlable. Puis je pense que le dernier élément qui est très intéressant, puis encore une fois, je pense que ça rejoint des gens tant à droite et à gauche, c'est ce qui a été fait essentiellement pour les aînés invalides. À partir de maintenant, il y a la suppression de la réduction de la rente de retraite pour les aînés invalides. Ça représente environ 2 milliards de dollars pour soutenir les Québécois, mais c'est aussi pour mettre fin à une injustice qui affectait pas loin de 77 000 personnes. Donc, c'est bien de voir qu'il y a une concession en ce sens. Mais pour vrai, les bonnes nouvelles dans le budget, je suis désolé de vous le dire, mais une semaine plus tard, après être repassé au travers des documents, j'ai compte à peine sur une main, malheureusement.
Ton char date de quelle année, Nick?
2016,
ça veut dire 4, 5, 6, 7, il y a 8 ans. Fait que si tu le revends, il va être encore taxable jusqu'à concurrence de 14 ans, oui.
Exactement. Puis, ben, écoutez, je peux vous assurer qu'en 2034, je vais m'acheter une voiture à essence. Mais il y a au final, oui, de ce genre de petites mesures-là, comme le fait le gouvernement ne serait-ce que de taxer des véhicules de 14 ans, qui sont jusqu'à 14 ans de sur les routes, ne serait-ce que ça, ça fait partie des différentes mesures qui... Ils ont mis ça de l'avant un peu comme avec l'augmentation de la taxe sur les cigarettes, la taxe sur les cigarettes essentiellement sur les cartons de cigarettes. Donc au final, on fait des petites mesures comme ça pour dire inquiétez-vous pas, on va augmenter les revenus, mais c'est pas les revenus qui doivent être augmentés au Québec. Encore une fois, c'est vraiment les dépenses qui doivent être coupées.
Nick, on se laisse là-dessus. Je te souhaite de passer une super de belle journée. Un gros merci. On se rejase mardi prochain. C'est toujours un plaisir.
Bien, c'est toujours un plaisir. À la semaine prochaine.
Salut, bye-bye. L'excellent Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Voulant en savoir plus, voulant avoir accès aux articles et aux sujets que Nick nous jase, bien, c'est contribuable.ca. On fait un petit aparté musical. On s'amuse un peu, on se gâte. Avec qui? Avec les Foo Fighters.
Qui étaient là l'année passée. Ils vont-tu revenir
cette année aussi?
Non, c'est assez.
Ça va être annoncé demain.
Demain midi, on a toutes les infos.
Moi, je pense que Motley Crue devrait être annoncé.
S'il vous plaît.
50 Cent devrait être annoncé.
S'il vous plaît.
Moi, je croise mes doigts pour les Red Hot Chili Peppers.
Ouais. Chris Stapleton. Hein?
Oui.
On y croit.
Danser un slow avec ta blonde ou avec ton chum, ça tourne...
Tennessee Whiskey.
Tennessee Whiskey.
Ça se c'est plein de
ben oui, les Foo Fighters, Everlong.